Pour continuer notre exploration dans la thématique du jour, deux directeurs d'office de tourisme, l'un à distance et l'autre en direct. Bonjour Sylvain Couty.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'office du tourisme, du commerce et de l'artisanat de Mont-de-Marsan agglomération depuis 2018. On va vous retrouver dans un instant, mais je vous propose pour l'heure de retrouver Jérôme Lay, directeur depuis une vingtaine d'années de l'office du tourisme du Seignanx, un territoire landais aux portes du Pays Basque, entre Hossegor et Biarritz. Le littoral, les Barthes de la Dour, la Vélodyssée ou Compostelle auront continué de séduire les touristes malgré la crise sanitaire, nous explique Jérôme Lay, mais il est capital de prendre en compte les nouvelles exigences touristiques.
On l'a évidemment ressenti, ça a bouleversé un peu quelques équilibres. Hein. Néanmoins, la proximité du littoral a fait que on a quand même eu une fréquentation touristique assez importante, sûrement beaucoup plus concentrée sur l'été, avec beaucoup moins de clientèle étrangère, cela va de soi. Pour autant, la côte atlantique, de manière générale, est quand même très attractive, notamment pour les touristes français, qui sont moins partis à l'étranger et qui ont donc choisi plus ou moins de rester en France et de se rendre sur ce littoral atlantique attractif. Donc on va dire que le déficit de clientèle étrangère a été compensé par une clientèle française, voire une clientèle de proximité, ce qui nous a permis quand même de résister au trou, il faut bien le dire, au trou de deux ans qui a concerné le secteur touristique dans son ensemble. On a été beaucoup moins impacté que des zones qui sont plus éloignées des littoraux, je pense. Voilà, donc il y a eu des impacts certains, mais on n'a peut-être pas été touché autant que des destinations plus éloignées des littoraux, on va dire.
Et hors Covid, la répartition touristes étrangers, touristes français, elle ressemble à quoi ?
Alors, elle n'est pas très importante sur le Seignanx, ce qui explique aussi qu'on est plutôt bien résisté à cette crise sanitaire, puisque la clientèle étrangère, ça représente à peu près une quinzaine de pourcents de notre clientèle, pas plus en tout cas, majoritairement concentrée sur la période estivale. Donc on n'a pas beaucoup de clientèle étrangère, mais elles sont plutôt très réparties, très diffuses. Voilà, on n'est pas dépendant d'une clientèle étrangère en particulier.
Vous évoquiez en début d'entretien, Jérôme, les nouvelles exigences des touristes. Est-ce que, est-ce que cette crise, cette pandémie a influé sur ces nouvelles exigences ou est-ce qu'elles n'ont rien à voir ?
Alors, elles n'ont pas rien à voir. Je dirais plutôt que cette crise sanitaire a accéléré les changements que nous avions déjà notés précédemment. Alors, c'est peut-être pas que propre au tourisme, mais en tout cas, les déplacements évoluent, donc on n'a quasiment pas de clientèle qui est venue en avion à l'aéroport de Biarritz, ça c'est certain. Les gens utilisent beaucoup plus le vélo, des transports alternatifs pour se déplacer sur leur lieu de résidence, les locaux mais aussi donc les touristes. Ils sont évidemment très connectés, donc ils disposent de toutes les informations nécessaires dans leur téléphone qu'ils utilisent tout au long de leur séjour pour accéder à de l'information touristique, des séjours qui se raccourcissent un petit peu peut-être, et surtout des pratiques de loisirs très tournées vers la nature. On parlait du vélo, mais les activités de nautique en général, canoë, surf, base de loisirs, etc., ont quand même la cote. Alors ça, c'est des choses qui existaient déjà, c'était des tendances qu'on percevait déjà avant la période de Covid, mais qui ont été très renforcées, très accélérées par cette période-là.
Et selon vous, donc, qu'est-ce que ça va entraîner pour le tourisme de demain ? Et quelle forme doit prendre, selon vous, ce tourisme de demain ?
Alors, j'adorerais le savoir. j'adorerais le savoir, ou peut-être pas même, je sais pas. Mais en tout cas, il me semble que le tourisme est moins dissocié de la vie professionnelle et de la vie réelle. Donc, on a bien sûr tous ces gens qui ont besoin d'une bulle de liberté, de nature, pour contrecarrer un petit peu le quotidien et les quasi 50 autres semaines qu'on va passer au boulot, sur des écrans, en milieu urbain, etc. Donc, je pense que là, je vois pas comment on pourrait revenir trop en arrière là-dessus. Le temps de vacances, c'est un temps où on s'extrait un peu de son quotidien, où on va vers les autres, où on va rencontrer de nouvelles personnes, où on se met, entre guillemets, un peu en danger, où on casse son quotidien. Donc je pense que ça, je vois pas ce qui pourrait remettre en question cette nécessité de s'aérer la tête, l'esprit, le corps. Mais il va de soi aussi qu'on est dans un monde qui se connecte toujours plus et qu'on a des outils d'information à disposition immédiate, des moyens de connecter et qui impactent nécessairement la façon dont on organise ses congés aussi. Et puis il y a aussi l'émergence de des gens qui mélangent un petit peu le travail et les loisirs. Des gens qui se sont par exemple réfugiés entre guillemets pendant les temps de confinement dans des endroits, dans des destinations de vacances presque pour télétravailler. Je trouve que la frontière entre le travail et les loisirs est de plus en plus poreuse finalement. Des gens pendant leur séjour vont quand même se réserver des temps de travail, par exemple. Voilà un peu comment je vois les choses, quoi.
Et au niveau des tourismes alternatifs qui prennent en compte également parce qu'on a parlé pas mal de la crise sanitaire, mais il y a la crise environnementale aussi qui est en cours. Il y a également une crise économique qui se fait sentir. Est-ce que vous pensez que ces crises supplémentaires vont avoir un impact ou doivent être prises en compte pour le tourisme de demain?
Alors qu'elles doivent être prises en compte, c'est l'évidence. Mais je pense quand même que le tourisme est une activité économique nécessaire et utile à nos régions. Je parle des Landes, je parle au moins de ce que je connais. On a besoin de l'économie touristique. Donc ça me paraît... ça me paraît assez évident que ça va avoir un impact. Toutes ces crises-là, cette évolution-là va avoir un impact. Néanmoins, le tourisme génère des emplois aussi, des emplois locaux qu'on peut difficilement télétravailler quand on accueille de la population touristique. Et elle me paraît assez aussi résiliente comme activité économique. Elle se pose quand même des questions. On voit émerger beaucoup d'écolabels, etc., et de comportements beaucoup plus responsables chez les professionnels du tourisme. Ça me paraît également assez évident. Et puis surtout, le tourisme, au moins pour nous, nous a permis quand même de résister déjà à des crises majeures. Les gens auront toujours besoin, me semble-t-il, d'un temps de vacances, entre guillemets. Et on a vu que même pendant des sombres périodes de notre histoire, ces deux dernières années, évidemment, ça n'a pas empêché les gens justement de se réserver ce temps de vacances. Je me souviens aussi avoir connu des catastrophes pétrolières avec des plages mazoutées. On a quand même eu un flux et une activité touristique et économique importante. Il y a eu des périodes de crise aussi. Et finalement, le tourisme est assez crise résistant, me semble-t-il.
Donc, optimiste pour le tourisme de demain?
Oui, alors optimiste, oui, parce que je crois que c'est un trait de mon caractère, donc je regarde toujours un peu plutôt le verre à moitié plein, mais de tout temps à jamais, le tourisme a existé. Le tourisme, c'est une belle chose au départ. C'est l'idée qui consiste à sortir de son confort et d'aller voir autre chose, d'aller vers l'ailleurs, voir l'autre avec un grand A. Ça a toujours existé. L'homme, il s'est toujours déplacé. Donc, je vois pas ce qui pourrait remettre en question ça. Par contre, voilà, quand on regarde un peu ce qui est devenu le tourisme ces dernières décennies, c'est quand même une économie, une activité qui est polluante, hein, puisque qui dit déplacement dit transport, qui dit transport dit pollution. Il y a eu des impacts sur certaines destinations assez lourdes, hein, sociales, économiques. Le tourisme, il faut apprendre à le regarder autrement et à le rendre plus résilient et s'adapter aux contraintes et prendre sa part dans la pollution et de faire en sorte de mieux le gérer et de rendre l'activité moins impactante sur l'environnement, sur le social. C'est pour ça qu'il faut le gérer, le tourisme. Il faut l'encadrer, il faut anticiper. Voilà, il y a du boulot. Il faut bien le prendre en compte dans le développement des territoires, surtout ceux qui sont sur des flux touristiques. Des sujets qui sont importants, me semble-t-il, qui nous concernent tous, parce que je voudrais quand même dire que on est tous des touristes. Hein. Faut être bien clair là-dessus. Hein. Même quelqu'un qui est pas un grand baroudeur, il se déplace forcément. On est tous des touristes un jour ou l'autre. Alors le paradoxe, c'est qu'on est tous des touristes, mais qui supportons mal les touristes. C'est-à-dire que on est tous d'accord pour se barrer de chez nous, mais on n'est pas tous d'accord pour accueillir les gens chez nous. Donc il y a un curseur à placer. Il faut développer le tourisme, mais faire en sorte qu'il soit le plus positif pour la destination accueillante. C'est un sacré enjeu. Ça ne veut pas dire nécessairement toujours plus de touristes. C'est pas une course à l'échalote. Il faut le prendre en compte, mais faut peut-être penser à faire le tourisme mieux, mais pas forcément plus.
Merci beaucoup, Jérôme.
De rien. Hein. Merci à vous.
Sylvain Couty, vous avez relevé des choses sur lesquelles vous souhaitez réagir par rapport à ce que disait Jérôme Lay à l'instant ?
Oui, moi je rejoins globalement toute son analyse. C'est pas que je suis moins optimiste, mais j'ai moins confiance dans la nature humaine et force est de constater qu'avec les déconfinements successifs, le retour à l'usage de l'avion dans la pratique pour dire allez, on part en vacances, malgré tout est revenu, alors que si on en fait l'analyse, on aurait pu peut-être aller ailleurs sans forcément prendre l'avion. Donc, l'être humain reste l'être humain. Donc, je pense que c'est plus compliqué que ça, en fait.
Et toujours dans ce que cette crise a pu déclencher, la question de la frontière entre le travail et les loisirs qui s'est aminci, comme l'expliquait le directeur de l'OT du Seignanx. Est-ce que vous avez établi ce même constat ?
Oui. Complètement, j'ai même, parce que j'ai travaillé un peu avant de venir quand même, j'ai repris les conclusions d'une étude qui avait été commandée par Atout France, qui est l'agence nationale en charge de l'attractivité de la destination France, hein, parce qu'on fait partie des plus grosses destinations en termes de flux, pas en termes de dépenses. Ça c'est important, on dit souvent la France est la première destination mondiale du tourisme, c'est pas vrai, économiquement on est quatrième. Donc ça veut dire que le rapport qualité-prix n'est peut-être pas forcément top dans notre pays. Donc on a aussi des choses à repenser et donc se poser la question, mais en fait, que veulent les gens après cette crise ? Donc moi j'ai repris, la première chose qui reste et qui n'a pas bougé, c'est vraiment ce qu'ils ont au fond d'eux quand ils partent, le soleil, la mer, les amis et la fête. Ça ne bouge pas du tout. Donc ce qui veut dire qu'intrinsèquement, le besoin de partir est toujours pour à peu près les mêmes motifs. Par contre, ce qui ressort, c'est... disposer d'une maison de famille ou passer du temps avec ceux qui vous sont chers a fortement rétrogradé. Mais non pas pour passer du temps avec la famille, c'est le fait qu'on ait besoin d'un bien luxueux, super grand. C'est l'objet est moins important que le motif. C'est surtout ça qu'il faut retenir par rapport à ça. Donc intrinsèquement, le besoin de retrouver sa famille est ressorti, mais pas forcément dans les conditions d'avant. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ensuite, le retour à la nature. Est vraiment ressorti. Nous, on l'a vu à Mont-de-Marsan, suite au premier confinement, est arrivé en premier des ventes, et c'est encore le cas aujourd'hui, la vente des topo-guides pour aller marcher dans les bois. C'était un truc qu'on vendait quasiment pas avant. Donc, il y a quand même un fait, même attesté, à Mont-de-Marsan.
Il y a une évolution, et cette crise aussi s'est ressortie sur les touristes et le tourisme à l'échelle de l'agglomération. Jérôme Lay évoquait l'impact, justement, qui était peut-être moins fort par rapport au littoral, sur son office du tourisme, sa région à lui. Comment ça s'est passé dans les Landes intérieures ? Il y a donc cette évolution par rapport aux marches, aux guides, aux guides pour explorer un peu notre nature ?
Oui. En fait, la démarche elle est toujours à peu près la même. Quand on raisonne en tourisme, le tourisme, c'est une activité économique à part entière. Donc on parle de chiffre d'affaires, de marge commerciale, c'est tout pareil. Donc forcément, c'est vraiment lié au monde économique. Donc nous, on raisonne en ce qu'on appelle en nombre de lits marchands. On a tant de milliers de lits sur notre territoire qui n'est pas très élevé. Donc du coup, on n'a pas une capacité à accueillir plein de monde. Et ça va évoluera un peu à la marge, mais intrinsèquement, on n'est pas générateur de CO2 ou autre. Par contre, on est générateur de beaucoup plus de gens qui reviennent voir leur famille, qui viennent passer du temps chez l'habitant. En fait, ça revient à ça, sans qu'il y ait forcément de consommation marchande. Je vais donner cet exemple-là. Pour les vacances en ce moment, on a des publics qui reviennent vers les offices de tourisme, les grands-parents qui vont chercher des activités à faire avec leurs petits-enfants. Donc, nous, on l'avait...
Des gens qui sont habitants du territoire.
Tout à fait. Mais du coup, leurs enfants n'habitent plus Mont-de-Marsan. Mmh. Sont à Paris, à Bordeaux, à Auch, n'importe où, mais du coup, gardent les petits-enfants pendant les vacances. Le retour à qu'est-ce qu'on peut faire avec nos petits-enfants au-delà du puzzle, de ceci, de cela, on va faire de la rando, ah ouais, mais alors, je ne les connais pas, j'achète un topo guide. On retrouve des choses dans cette pratique-là. Donc, on a vécu la saison estivale comme l'ont vécu les collègues du littoral. Moi, la seule chose que... Donc, c'était une saison concentrée sur l'été, moi, voilà, avec une activité bien moindre, hein, parce qu'on est... On n'a pas la même attractivité. Moi, ce que je soulignerais, et qui est un vrai choc, qui revient plutôt sur le parti sociétal, parce que le développement durable, c'est pas que préserver l'environnement, ça fait partie de préserver l'environnement, mais c'est pas que de l'environnemental, c'est aussi le sens des choses que l'on fait. Et il y a une étude qui a été faite par un cabinet américain, c'est toujours plus crédible quand c'est américain, en fait. mais qui est intéressante, qui était de remettre en question... C'est quoi le sens de ce que je fais, en fait? Le sens de ma vie, de mon travail et tout ça. Et la plus grande remise en cause, c'est dans les métiers du tourisme. 45% des gens ont dit que dans les 6 mois, ils changeraient de boulot, quitte à pas avoir de boulot. Et Jérôme, j'en ai parlé avec lui cet été, il n'en a pas parlé là, dans son témoignage, mais c'est une saison où les hôteliers, les restaurateurs n'ont pas trouvé de saisonniers comme ils voulaient. Il y a même des établissements de haut de gamme qui ont fermé les week-ends parce qu'ils ne pouvaient pas assurer. Parce que soit la rémunération n'y est pas, soit le fait, j'ai fait des études, je parle 3 langues étrangères, je gagne 1200 euros et je bosse jusqu'à 23 heures. Et les touristes, on sait comment ils sont. Quand on est en vacances, on est le roi. Donc, ce n'est pas forcément des relations faciles. Ben, non, mais je ne veux plus ça, moi. Je veux peut-être travailler dans cette filière, mais pas de cette manière-là. Donc ça, c'est fond. Ça, je crois que c'est un vrai changement dans nos métiers.
Par rapport à cette attractivité qu'on évoquait, vous avez fait le pari de vous réunir à 3 offices de tourisme pour créer Landes Intérieur, pour mettre en valeur justement ce territoire, voilà, qui est parfois délaissé et qui, aussi a un sens particulier. Il y a cet esprit développement durable qui est au cœur de cette démarche.
Tout à fait, parce que et à plusieurs niveaux. Et là, on essaie de l'élargir aux autres collègues, parce que pour un touriste, la limite administrative n'a pas de sens.
Donc, oui, alors j'ai peut-être d'ailleurs précisé que ce dispositif de Landes Intérieur, c'est donc l'Office de tourisme de Mont-de-Marsan Agglomération, de Chalos et du Pays Grenadois.
Tout à fait. Alors, c'est Landes Chalos, plutôt Saint-Sevé, Agetmo, Amou. Mais là, on travaille avec Pays Tarusat, Terre de Chalos et Air sur la Dour. On essaye de dialoguer avec eux pour se dire on a des choses à faire parce qu'on est un territoire moins connu. En plus, on n'a pas l'Armagnac ni la forêt des Landes sur le territoire, donc on pourrait dire qu'on est le parent pauvre, oui et non en fait, parce qu'il y a des pépites, il y a des choses à faire, mais aussi on est un territoire gascon, avec des traditions gastronomiques, des traditions, les jeux de quilles, la sylviculture, et tout là où a travaillé Caroline, qui témoignait avant quand elle était au PNR, au Parc Naturel Régional. Et je crois que ça a une vraie valeur, parce que les gens qui cherchent du sens, et Jérôme l'a dit, et Caroline l'a dit, ces deux mots, ils ont dit ce mot-là qui est très important, le tourisme, c'est du partage, c'est de la découverte, c'est accueillir l'autre en fait. Donc c'est là où on parle de révolution technologique, que nini, hein. Facebook c'est très bien, mais malgré tout c'est pas parce que je l'ai vu en photo que je l'ai vécu. Donc la notion d'aller vers l'autre, ça c'est là où je rejoins Jérôme, alors elle sera toujours nécessaire. Par contre, donner du sens à ça est pertinent. Et nous, il faut qu'on donne du sens. Et l'intérêt de cet appel à projet, c'était justement de dire, mais en fait c'est quoi qui nous réunit? Et bien, ce qui nous réunit, c'est nos traditions landaises, gasconnes. Alors des fois, sur des choses qui sont clivantes, je ne suis pas d'ici, et c'est sûr que les corridas, sujet pas forcément évident, mais les courses landaises, Moi, j'ai découvert la tourtière et le pastis sundae que je connaissais pas. Et maintenant, du coup, j'ai pris un peu de kilos. Donc, je suis arrivé. Mais ça, c'est des choses qui ont une vraie valeur et les gens sont plus attachés et vont plus retenir ça que oui, on a un musée, oui, on a une ville qui a. On n'aime pas, comme toutes les villes, on peut avoir des coups de cœur ou non. Ça, c'est intrinsèque. Nous, on a des choses qui sont beaucoup plus profondes et qui méritent d'être partagées. Du coup, le boulot est un petit peu plus compliqué, mais c'est en gros, l'idée, c'est si vous venez vous voir, si vous venez nous voir, c'est pour ça. Et ça a du sens.
Et justement, ce pari des traditions, il y en a quelques-unes dans notre département, c'est ce qui fait aussi sa réputation. Et il y a donc des questions, vous venez de le dire, qui divisent la gastronomie, notamment avec le foie gras. Mais bon, il y a quand même plein de gens qui viennent justement pour ce foie gras. La tauromachie et l'accessibilité, qui est au cœur même de l'actualité avec le débat sur la LGV. Alors, comment ces points de divergence vont, selon vous, jouer, Sylvain Couty, sur le tourisme de demain pour notre territoire?
Comme pour tous les territoires, c'est toujours les enjeux économiques qui priment. S'il y a des milliards d'euros ou un avenir qui peut être joué par rapport à la ligne LGV, je ne parlerai pas de ce sujet-là, parce que j'ai un avis en tant qu'être humain et un avis en tant que directeur d'office de tourisme qui peut interroger, mais c'est des vrais sujets légitimes. Et là où il y a une vraie difficulté, c'est que de tout temps, le monde et le développement se fait et s'enrichit par des gens qui se rencontrent, qui sont différents. Et c'est parce qu'on croise différentes cultures qu'on s'enrichit et que le monde avance et qu'on crée des belles choses. Souvent, elles sont plutôt issues de ça que par l'entre-soi. Le tourisme permet ça. C'est pour ça que l'approche, et c'est là où l'Office du tourisme est devenu commerce artisanat et où on veut devenir aussi autre chose, c'est, je crois beaucoup plus à la notion d'attractivité, mais pas forcément dans il faut plus de monde, plus de monde. L'attractivité, pour moi, ça peut être aussi excluant. Ça peut être de dire à Mont-de-Marsan, ouais, t'as pas de TGV, à Mont-de-Marsan, il n'y a pas d'aéroport, mais c'est pas pour autant qu'on est malheureux et qu'on n'a pas un cadre de vie agréable, qu'on n'a pas des forêts où on peut être heureux et où on... Et donc, c'est revendiquer aussi certaines valeurs. Nous, par exemple, je fais un peu le teasing sur tout ce qui est land intérieur et ce qu'on évoque, la notion d'audace, nous semble importante. Parce que c'est vrai que si on veut s'ouvrir un beau coup de foie gras pour le goûter, ben, pourquoi on ne le ferait pas après tout? Il y a plein de choses qu'il faut qu'on n'ait pas peur de revendiquer. Et je pense que voilà, l'avenir, ça passe aussi pour ça, mais ce n'est pas dans la logique du toujours plus. Par contre, les enjeux économiques, ceux-là, et puis parlez-en avec les restaurateurs aujourd'hui, ils vont dire c'est bien beau, il faut faire ceci, mais moi je vois que j'ai quand même moins 60% de fréquentation, j'ai des gens à payer, j'ai des gens qui ont peur de perdre leur travail. Ça reste malgré tout une activité économique avant tout.
Et sans faire venir des gens de trop loin, justement, commencer par les gens du coin qui partent pas toujours en vacances, comme l'évoquait Caroline Leroy il y a quelques instants, peut-être penser à inclure ces personnes dans un tourisme un peu plus
Tout à fait.
local.
Exactement. Ben, c'est les échanges. Par exemple, dans la démarche d'attractivité, je vais prendre cet exemple-là. Nous, on s'est rapprochés des collègues de l'agglomération qui sont en charge des politiques de la ville, en se disant, mais les gens qui partent pas en vacances, qui sont dans ce qu'on appelle ben, le Perouat, par exemple, qui fait partie des quartiers en zone prioritaire, d'éducation prioritaire et autres, pourquoi on ne bosserait pas ensemble? Parce que moi, je me casse la tête à trouver les petites pépites, les endroits sympas, ou travailler avec des prestataires pour qu'il y ait des offres originales. Exemple, vous connaissez certainement le Rucher de Clarens, qui a une démarche où c'est un ancien instit, et du coup, il a créé une démarche... À la fois pour manger du miel, c'est super, mais aussi expliquer cette
Et
petite bestiole, elle
pédagogique.
est un petit peu importante dans notre vie de tous les jours. Ben, en fait, les gamins, ils y vont si les écoles y vont, mais pourquoi les familles, ils n'iraient pas? Parce que la culture de partir en vacances, comme l'a dit Caroline, il y a un tiers de personnes qui ne partent jamais, mais jamais. Donc là, faut aussi aider ça. Et ça fait partie de l'économie locale, et il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis pour vendre un pot de miel.
Merci beaucoup, Sylvain Couty. Vous allez rester encore un petit peu avec nous. Et pour l'instant, il est midi sur MDM.